Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un auteur de théâtre qui est maintenant assez peu joué, mais qui a eu sa période de succès. Je parle de Bernard-Marie Koltès. Alors, Bernard-Marie Koltès, pour vous situer un peu l'époque, il est né en 1948 à Metz et il est mort en 1989 du sida. Ça veut dire que il a vécu pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et il a écrit quelques pièces, notamment qui ont été mises en scène par Patrice Chéreau, entre autres. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une de ces pièces, la dernière qu'il a écrite. Il a écrite en 1988, à peine un an avant sa mort. Cette pièce s'appelle Roberto Zucco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Roberto Zucco, étonnamment, se base sur des faits réels. Le vrai personnage, en fait, enfin le vrai personnage, celui qui a servi de modèle à Bernard-Marie Koltès, s'appelait Roberto Zucco. Il est né en 1962, il est mort en 1988, presque en même temps que Bernard-Marie Koltès. Et ce Roberto Zucco, à 19 ans, en 1981, il tue sa mère d'abord, puis son père qui a eu la malencontreuse idée de rentrer entre-temps. Il est interné en hôpital psychiatrique. En 1986, il s'évade et il devient l'ennemi public numéro un en France, en Italie, en Suisse. Il viole, il vole, il tue. Et puis, quand il est arrêté à nouveau, on décèle chez lui une forme de schizophrénie. Il est à nouveau interné en hôpital psychiatrique. Et c'est là, à l'âge de 23 ans, qu'il se suicide. En 2001, signalons que le metteur en scène Cédric Kahn en a fait un film, disons, le moins qu'on puisse se dire, qui ne casse pas trois pattes à un canard. Alors, revenons-en à la pièce Roberto Zucco. Zucco, c'est avec Bernard-Marie Koltès, il a écrit avec un Z, alors que le vrai nom, c'était S-U. Et c'est une pièce, j'oserais dire, complètement éclatée. C'est-à-dire que vous avez des scènes, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, et c'est pratiquement contemporain de l'histoire du véritable Roberto Zucco. Alors ici, je vous donne un exemple. On est dans le métro. On est dans le métro et dans ce métro, il y a un monsieur. Je suis un vieil homme et je me suis attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro lorsque soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station que je fréquente pourtant si régulièrement que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait derrière le parcours limpide que je pratique tous les jours un monde obscur de tunnels, de directions inconnues que j'aurais préféré ignorer, mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà. Soudain que les lumières s'éteignent, ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence, Je marche donc droit devant moi dans un monde inconnu le plus vite possible. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et jusqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir une issue, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors, me voici ici dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge, puni de ma distraction, de la lenteur de mon pas à attendre je ne sais trop quoi. Et je ne veux pas trop savoir quoi, car de telles nouveautés, décidément, à mon âge, sont dures à avaler. Et ce vieux monsieur va être abordé par Zuko. Et voici comment se présente Zuko. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure façon de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur ni odeur, que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier, c'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels, il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang. Et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études, j'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université, sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée parmi d'autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer, je vous jure qu'il faut être un bon élève discret et invisible pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux, traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai invisible parmi les invisibles, silencieux, attentif, dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase qui se déplace très lentement, que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre. Vous voyez que le personnage, je le rappelle, basé sur le portrait d'un tueur, a de quoi séduire. Et là, je voudrais vous présenter deux autres personnages qui apparaissent dans la pièce. La gamine qui a été violée par Zuko et sa sœur. La sœur. Elles sont dans la cuisine. Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche et moi, je suis ta sœur et toi. Tu es une vierge prolongée, tu ne sais rien de la vie, tu as bien vieilli sur moi, tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille, je suis violée, je suis perdue, je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une vieille fille qui ne connaît rien à rien, devrait se taire devant mon expérience? De quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur ne sert à rien. Elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible, seule. L'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère, ta sœur, jusqu'à ce que tu sois vieille. Tu te souviendras de cela, tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon étourneau. Sous le regard de ta sœur, de ton frère, de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère, ma sœur que j'oublierai, que j'oublie déjà, mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé parce que il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimé. Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu n'as jamais été aimé. Tu es resté toute seule, toute ta vie. Et tu as été très malheureuse. C'est ainsi que, de personnage en personnage, on va voir se dessiner la figure devenue un mythe de Roberto Zucca. Et je prends un exemple. À un moment donné, une pute, c'est ainsi qu'elle est nommée dans la pièce, s'approche de Zucca qui vient de se bagarrer, qui a été jeté à terre. La pute. Ne cherche plus la bagarre, gamin, ne cherche plus la bagarre, ta belle gueule est déjà bien abîmée. Tu veux donc que les filles ne se retournent plus sur toi? C'est fragile, une gueule, bébé. On croit qu'on l'a pour toute la vie et tout d'un coup, elle est bousillée par un grand connard qui n'a rien à perdre pour sa gueule à lui. Toi, tu as beaucoup à perdre, bébé. Une gueule cassée, toute ta vie est fichue, comme si on t'avait coupé la queue. Tu n'y penses pas avant, mais je te jure que tu y penseras après. Ne me regarde pas comme cela, ou je vais pleurer. Tu es de la race de ceux qui donnent envie de pleurer. Rien qu'à les regarder. Et les personnages se multiplient, on les voit défiler, alterner sur la scène. Et Zucca déclare, il est seul. Je veux partir. Il faut partir tout de suite. Il fait trop chaud dans cette putain de vie. Je veux aller en Afrique sous la neige. Il faut que je parte parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes, mais de l'amour, il n'y en a pas. Avec les femmes, moi, c'est par pitié que je bande. J'aimerais renaître chien pour être moins malheureux, chien de rue, fouilleur de poubelle. Personne ne me remarquerait. J'aimerais être un chien jaune, bouffé par la gale dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais être un fouilleur de poubelle pour l'éternité, je crois. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Il faut arrêter d'enseigner les mots. Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De toute façon, un an, 100 ans, c'est pareil, tôt ou tard. On doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait chanter les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux.
Thank you.
Nous arrivons maintenant au moment où l'action, si je peux dire, se noue. N'oublions pas que Roberto Zucco est devenu un ennemi public. On le recherche partout. Et un inspecteur et un commissaire de police capturent la gamine dont on a vu l'entretien avec sa sœur un peu avant. L'inspecteur, que sais-tu de lui? La gamine, tout. L'inspecteur, français, étranger, il avait un très petit, très joli accent étranger. Germanique, je ne sais pas ce que veut dire germanique. Ainsi donc, il t'a dit qu'il était agent secret. C'était étrange, en principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderai ses secrets, quoi qu'il arrive. Bravo! Si tous les secrets étaient gardés comme cela, notre travail serait facile. Nakamini m'a dit qu'il allait faire des missions en Afrique, dans les montagnes, là où il y avait de la neige tout le temps. Un agent allemand au Kenya. Les suppositions de la police n'étaient pas si fausses, après tout. Elles étaient exactes, commissaire. Son nom maintenant. Tu le sais, tu dois savoir, puisque c'était ton ami. Oui. Je le sais. Dis-le. Je le sais très bien. Tu te moques de nous, gamine. Est-ce que tu veux des chiffres? Je ne veux pas de chiffres, je le sais. Mais je n'arrive pas à le dire. Comment ça, tu n'arrives pas à le dire? Je l'ai là, au bout de la langue, au bout de la langue, au bout de la langue. Tu veux des gifles et des coups de poing, et quand on te tire les cheveux, on a laissé l'équiper tout exprès ici, tu sais. Non, 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 je l'ai là. Il va venir. Son prénom, au moins, tu dois bien t'en souvenir. Tu as bien dû lui lécher cela dans l'oreille. Un prénom, n'importe quel, je suis en train de la salle de torture. Nakamine, Andreas. Tu es sûr? Non. Je vais la tuer. Accouche de cette saloperie de nom, ou je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi, tu t'en souviendras. Angelo, un espagnol. Je le sens au bord des lèvres. Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir? Angelo. Dolce ou quelque chose comme cela. Dolce, comme doux. Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Zucco. Zucco. Roberto Zucco. Tu es sûr? Sûr, j'en suis sûr. Zucco avec un Z? Avec un Z, oui, Roberto, avec un Z. L'inspecteur conduisait l'affaire à sa disposition. Et mon frère, ton frère? Qu'as-tu besoin d'un frère? Nous sommes là. Et c'est ainsi que Roberto Zucco se trouve coincé, rattrapé par la justice. Mais avant cela, on va le découvrir sous un jour peut-être inhabituel. Tout à l'heure, on l'a vu dans le métro, parler avec un vieux monsieur perdu dans les couloirs. Là, il est dans une station de chemin de fer. Et avec lui, il y a une dame. Zucco, Roberto Zucco. Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom? Parce que j'ai peur d'oublier. On n'oublie pas son nom, ce doit être la dernière chose que l'on oublie. Non, non, moi, je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau, de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Il faut que je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas, je serai votre mémoire. J'aime les femmes. J'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop, je les aime. Je les aime toutes, il n'y a pas assez de femmes. Alors, vous m'aimez, oui, bien sûr, puisque vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous? Parce que je vais prendre le train. Et la Porsche, pourquoi ne partez-vous pas en Porsche? Je ne veux pas qu'on me remarque. Dans un train, personne ne voit personne. Suis-je censé le prendre avec vous? Non. Pourquoi pas? Je n'ai aucune raison de ne pas le prendre avec vous. Vous ne m'avez pas déplu de que je vous ai vu. Je vais le prendre avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous désirez. Sinon, vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le train. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais elle a oublié. Les mères oublient toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller? À Venise. Venise? Quelle drôle d'idée. Vous connaissez Venise, bien sûr. Tout le monde connaît Venise. C'est là que je suis né. Bravo. J'ai toujours pensé que personne ne naissait à Venise, que tout le monde y mourrait. Les bébés donnaient tout poussière et couverts de tout à l'air. En tous les cas, la France vous a bien nettoyé. Je ne vois pas de traces de poussière. La France est un excellent détergent. Bravo. Il faut que je parte. Absolument, il faut que je parte. Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces gens. La trouille. Soyez donc un homme. Vous avez une arme. Vous les feriez fuir rien qu'en la tirant dans votre poche. C'est parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Moi, je ne l'ai pas. Après tout ce que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais vu. Justement parce que vous n'êtes pas un homme. Vous êtes compliqué. Compliqué. Si on me prend, on m'enferme. Si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou maintenant. Il y a des flics partout, il y a des gens partout. Je suis des gens enfermés au milieu de ces gens. Ne les regardez pas, ne regardez personne. Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de vous dénoncer, imbécile? Je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ces connards me dégoûtent. Vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moins, s'il y a dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas là, maintenant, dans leur tête, parce qu'ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans des cages, des laboratoires. Ils ont envie de tuer, ça se voit à leur visage, ça se voit à leur démarche. Je vois leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang, il y en a partout. Il faut se tenir tranquille, sans bouger. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on les regarde dans les yeux, ils s'aperçoivent qu'on les regarde. Ils se mettent à nous regarder, à nous voir. Le signal se déclenche dans leur tête. Et ils tuent. Ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer. Tout le monde, tout le monde n'attend que le signal dans les têtes. Arrêtez. Ne commencez pas une crise de nerfs. Je vais acheter les deux billets, mais calmez-vous. On va se faire repérer. Pourquoi l'avez-vous tué? Qui ça? Mon fils, imbécile. Parce que c'était un petit morveux. Qui vous a dit cela? Vous? Vous avez dit que c'était un petit morveux. Vous avez dit qu'il vous prenait pour une idiote. Et si j'aimais, moi, être prise pour une idiote, et si j'aimais les petits morveux, et si j'aimais les petits morveux plus que tout au monde, plus que les grands cons, si je détestais tout sauf les petits morveux, il fallait le dire. Je l'ai dit, imbécile, je l'ai dit. Il ne fallait pas me refuser les clés, il ne fallait pas m'humilier. Je ne voulais pas le tuer, mais tout s'est enchaîné tout seul. À cause de cette histoire de Porsche, menteur. Rien ne s'est enchaîné, tout a été de travers. C'est moi que vous teniez sous votre arme. Pourquoi est-ce lui? dont vous avez fait exploser la tête avec du sang partout. Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout, elle aussi. Mais je n'aurais pas vu, imbécile. Je n'aurais pas vu mon sang, moi je m'en fous, il ne m'appartient pas. Tandis que celui de mon fils, c'est moi qui le lui ai fiché. Non. C'est elle, c'est mon affaire, c'était à moi. Je n'ai plus rien à moi maintenant. N'importe qui marche dans la seule chose qui m'appartenait. Je devais être nettoyé demain matin par les jardiniers. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Qu'est-ce qui me reste? Et évidemment, on en arrive à la conclusion. Zuko est arrêté. Il va s'évader à nouveau, ou plutôt, on ne sait pas trop comment. Il va monter sur le toit de la prison. On entend des voix, et puis le soleil monte, devient aveuglant comme l'éclat d'une bombe atomique. On ne voit plus rien. Simplement, pour conclure la pièce, une voix qui crie. Il tombe. Ainsi finit Roberto Zucco. Je vous remercie de m'avoir écouté.